Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, une invitée revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Yolande Zauberman. Bonjour Yolande Zauberman.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Yolande Zauberman, comment vous définir ? Vous êtes cinéaste, documentariste, comment vous présentez-vous ?
Cinéaste.
Cinéaste, ça
ouais.
Vous va ?
Oui.
Alors, on peut voir en ce moment votre magnifique documentaire qui s'appelle M, la lettre M, et qui a été primé déjà au Festival de Locarno et qui, je pense, va recevoir encore d'autres prix. Il en a déjà reçu d'autres ?
Oui, je crois qu'il a reçu 8 prix en fait.
8 prix déjà ?
Ouais.
Bon, c'est un film absolument magnifique sur qui se passe dans une communauté juive ultra-orthodoxe à Tel Aviv. Et franchement, c'est un film que je conseille. Ça a été un choc. Donc je vous remercie d'être ici aussi pour ça. Yolande Zauberman, vous avez choisi comme journée particulière le 8 mars 1967. Ce jour-là, les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy sortaient sur nos écrans.
J'ai rencontré l'homme de ma vie. Où ça ? Dans la rue. Raconte.
Je rentrais de l'école et je traînais Boubou, qui trépignait, pestait, jurait comme un voyou. Au milieu de la rue, il me fait un caprice et jette son cartable dans les immondices. Me voilà, genoux cernés par les vélos, recherchant les cahiers, les crayons, les stylos. Répandu ça et là, lorsqu'une voix aimable me fait lever les yeux vers un type adorable. Comme un souffle grisant, sa voix à mon oreille chante, fredonne et joue comme un envol d'abeilles. Je croise son regard et son regard me toise. Je suis émerveillée, puis je reste pantoise. Moi comme je les aime, un air intelligent, un sourire incertain, quelques mèches d'argent, dans une chevelure de pâtre de poète, un concerto sublime éclate dans ma tête.
Vous souriez en écoutant cet extrait, Yolande Zauberman. Vous aviez quel âge ? Vous étiez une jeune fille, une jeune petite ?
Non, j'étais une petite fille. C'est ma grand-mère qui m'a amenée sur les Champs-Élysées pour voir ce film et j'ai été émerveillée. Et moi, j'étais une petite fille très solitaire, assez renfermée. J'ai passé mon enfance, mon adolescence à rêver à peu près 18 heures par jour. Je connaissais pas grand-chose du monde extérieur. Il me semblait assez terrible, le monde extérieur. Et tout d'un coup, je découvre ce film où il s'agit d'aimer le jour, d'aimer la nuit, de rencontrer l'homme idéal, la femme idéale. Ces deux filles tellement belles, ces deux sœurs jumelles. Alors, sœurs jumelles, c'était le contraire de la solitude et toute cette grâce, cette beauté. Et puis quelque chose que j'ai aimé toute ma vie, que j'ai retrouvé après dans des films que j'aimais, comme les films de Melville, cette façon de parler dans les films de Demy, avec ces voix françaises magnifiques, moi qui baignais dans une atmosphère où on parlait le français avec un accent, où il y avait du yiddish, tout d'un coup c'était juste merveilleux en fait.
C'est justement avec votre grand-mère qui ne parlait que yiddish que vous allez voir ce film en 1967. Elle parlait français, cette grand-mère, ou elle ne parlait
pas ?
Très peu.
Elle me disait juste, il y avait un mot, c'était très étonnant, elle me disait « toi t'es costaud ». Costaud, c'était le mot qu'elle disait en français. Et je comprenais pas très bien pourquoi elle me disait que j'étais costaud, mais bon.
Mais pourquoi elle vous emmène voir ce film ? Parce qu'a priori, elle ne parle pas français. Enfin, qu'est-ce qui la pousse à vous ?
Elle va au cinéma. Elle aime le cinéma. Ma mère adorait le cinéma aussi, mais j'ai pas été avec ma mère au cinéma. L'histoire de ma mère avec le cinéma, c'est une histoire assez forte, mais ma grand-mère, oui, mais il paraît que même en Pologne, avant la guerre, elle allait au cinéma. le samedi, alors que c'était Shabbat. Elle aime le cinéma et elle y va le matin, sur les Champs-Élysées. Et elle m'amène. Elle m'amène de temps en temps. Et là, c'est juste... c'est trop beau, c'est-à-dire que ce souvenir des demoiselles de Rochefort est resté le même, mais toujours, toujours, quoi. Cette espèce d'éclair, d'éclat, de beauté, de...
D'un autre monde.
Oui, du monde tel qu'il devrait être, un monde en même temps fait de grâce et d'une superficialité que j'aime beaucoup. Si t'avais eu les yeux bleus, j'aurais pu mourir d'amour pour toi. Les marins qui sont, c'était tout le contraire de ce que je connaissais dans une famille très droite, très presque une famille juive, mais presque protestante au sens de valeurs très fortes, de travail, de sérieux, et là c'était, je sais pas, c'était
la joie.
Ouais, la joie, l'empathie, l'envie de vivre, tout quoi, ce café où elle se retrouve, et surtout ses robes, les robes des demoiselles quoi. Ses robes rouges, quand elle danse, enfin, c'est juste, c'est trop beau.
Et vous, vous étiez habillée comment?
Moi, j'étais habillée, j'avais une frange, les cheveux courts, les petites robes bien sages, et voilà, c'était, non, l'image de la féminité, pour moi, c'était ces deux filles, c'était presque encore plus Françoise d'Orléac que Catherine Deneuve. J'adorais cette femme rousse qui avait la voix grave et on sentait quand même une espèce de blessure par rapport à sa sœur en fait que je trouvais magnifique aussi hein, je trouvais les deux juste extraordinaires.
Ça vous a donné envie de vivre Yolande Zimmermann dans ce monde, c'était le monde rêvé, le monde où vous vouliez vivre, c'est là que vous vouliez être?
Oui. Et d'ailleurs, il paraît que toute petite, mon frère me disait qu'un jour, je me suis déculottée dans la rue et j'ai montré mes fesses aux passants. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et j'ai dit, je fais du cinéma.
Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Ben non. Tu crois?
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment.
Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites.
Nous sommes toutes deux nées de père inconnu. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Et m'en a ritourné les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu. Les coups de foudre aux sauvages passions. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate. Artiste passionnée,
musicienne,
acrobate,
cherchant un homme beau.
Cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à bobo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris.
Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du plan dans la cervelle, de la fantaisie à bobo. Nous sommes sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux.
Le 8 mars 1967, c'est votre journée particulière, Yolande Zauberman. Ce jour-là, vous restiez ravie par Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Et c'était votre grand-mère adorée qui vous y avait emmenée. Est-ce que vous saviez, Yolande Zauberman, que Les Demoiselles de Rochefort n'ont pas fait l'unanimité à sa sortie? Il y a eu entre autres un journaliste de La Croix qui s'appelait Jean Rochereau, qui a fait une critique au vitriol de ce film. Je vous en lis quelques lignes, je pense que ça va vous intéresser. Ah, s'il avait pu, sans effort superflu, se payer aussi pour le même prix, outre ses choristes, un scénariste. Ça commence comme ça et il continue. Demy s'adonne exclusivement aux roses bonbons, fondant des opérettes et donne à voir un monde agréablement faux, où les hommes seraient tous bons, les femmes toutes belles, et la vie une partie de plaisir. Point de vue qui m'est aussi familier que la langue araméenne. Qu'en pensez-vous, Yolande ?
Ouais, je pense qu'il a rien compris, parce que c'est vrai qu'il propose une espèce de monde tel qu'il devrait être, en fait. Tel qu'on en rêve quand on est enfant, et puis on se rend bien compte que tout est plus compliqué que ça, mais peu importe, il y a comme ça, c'est comme les fêtes. Je veux dire, quand on va à une fête, il y a quelque chose parfois de magique qui se passe, qui fait qu'il y a un état de grâce. Et moi, ce que je trouve magnifique dans ce film, c'est l'état de grâce permanent que même une enfant peut voir, quoi. Et qu'on a été quand même des millions, génération après génération, à voir, à saluer. Moi, je trouve que Demy, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau en France, en fait. C'est une largeur d'esprit, de cœur. C'est quelqu'un qui voit avec son cœur, en fait. Et ça, c'est magnifique.
Une journée particulière sur France Inter.
Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn?
Else Beckmann.
Yolande Zauberman, est-ce que ça vous fait toujours aussi peur d'entendre cet extrait de M. le Maudit de Fritz Lang? C'est une petite fille qui joue au ballon et il est là en train de siffler et bientôt il va la kidnapper et l'assassiner.
Et la violer avant de l'assassiner. Et c'est, oui, Les Demoiselles de Rochefort m'ont émerveillée et M. le Maudit m'a terrifiée, en fait. Et je crois que j'ai vécu entre ces deux sentiments toute ma vie, entre émerveillement et terreur. Et c'est vrai que cette première scène, je l'ai vue un grand nombre de fois. Moi, je me cachais dans la chambre de mes parents, dans le bureau de mon père, pour voir des films le soir, quand ils n'étaient pas là. Et souvent, ils sortaient. Et ce film, chaque fois qu'il est passé, j'ai jamais réussi à dépasser la première scène. Il m'a fallu des années et des années pour le voir en entier. Et oui, c'était la peur absolue. C'est-à-dire quelqu'un qui avance masqué, le pédophile qui avance masqué et qui a l'air d'être si gentil et qui vous attire dans un piège. Et après, j'ai découvert aussi toute la complexité de ce que c'était.
Oui,
et puis c'est l'allemand aussi, c'est cette voix très... avec tout ce que ça avait de connotation par rapport au nazisme, à tout ça. Donc, ça joue aussi. Il y a des choses, plein de choses que j'ai compris après, parce qu'en fait, M. le Maudit a été fait par Fritz Lang et a été écrit par sa femme, Thea von Arbo, qui était la scénariste du nazisme. Et ils se sont quittés. Et dans le film, il y a ce double mouvement. Il y a d'une part ce que lui en fait, qui est juste extraordinaire, et ce qu'elle en fait, elle. Et il y a cette espèce de dissociation extrêmement intéressante.
Alors la dissociation dont vous parlez, est-ce que c'est celle aussi que l'on voit à l'œuvre quand il y a le jugement de M le Maudit par tous les assassins et tous les criminels qu'il y a dans la ville, et où un avocat criminel aussi, certainement un avocat véreux, le défend et défend l'homme. C'est-à-dire que ce film de Fritz Lang aussi dit que c'est un homme qui fait ça, et c'est un homme malade, et c'est parce qu'il est malade et que c'est un homme qu'il doit être remis dans les mains d'un médecin et pas d'un bourreau.
Ma grand-mère, toujours la même, elle me disait en yiddish, pas faire et pas parler, on peut crever.
Ça veut dire quoi et comment ça se dit en yiddish?
Nishred nishtim ken platzen, on peut exploser. Ça veut dire qu'il faut ou parler ou faire. Et ce procès du pédophile où tout d'un coup il explose et où il dit mais c'est plus fort que moi, c'est en fait, après en grandissant, en lisant quelquefois dans les journaux des comptes rendus de procès de viol, je voyais que souvent ils disaient je mérite la mort, c'est-à-dire que ils étaient d'accord sur le fait que ce qu'ils faisaient était totalement innommable et pourtant ils le faisaient quand même et je crois qu'il n'y a pas de violeur heureux et moi je me disais mais où un violeur peut-il parler pour ne pas faire? Où peut-il se rendre pour dire voilà ce qui m'habite? Et surtout que j'ai découvert après que beaucoup de choses se passent à cause du silence, à cause du crime, du silence de gens qui ont été violés, qui ont honte de parler parce que la société les regarde d'une manière terrible. Et c'est dans ce silence que les viols se multiplient, mais on en parlera plus tard.
Et c'est dans ce silence que vous êtes allé justement en faisant votre dernier film. C'est ce silence-là que vous vouliez interroger en allant dans cette communauté ultra-orthodoxe de Tel Aviv avec un homme, M. Menahem, qui a été lui aussi violé. C'était pour que sa parole, pour l'empêcher lui aussi peut-être de devenir...
En tout cas, c'est la raison pour laquelle lui a eu envie de faire ce film, c'est pour ne pas devenir un violeur. Et parce que une proportion énorme des violeurs ont été violés. Et moi, j'ai été entraînée dans ce film par lui. Je savais pas que je ferais un film là-dessus, mais c'est vrai que c'est venu se superposer à toute cette archéologie dans ma tête qui avait été construite depuis M. le Maudit. Vous m'avez demandé de choisir... un film, je vous ai dit deux, parce que c'est vrai que moi je me situe toujours entre deux choses. J'ai choisi Les Demoiselles de Rochefort et M. le Maudit. J'aurais pu choisir Super Vixen, c'est Anne Frank.
Ouais.
Et c'est-à-dire quelque chose dans la sensualité et quelque chose dans l'enfermement. Voilà, j'ai préféré la joie et la terreur, mais c'est quelque chose qui était dans mon cœur, dans mes yeux, dans ma tête depuis toujours. Et quand j'ai rencontré Menahem et que j'ai compris son histoire et qui m'a dit viens, faisons un film, ça m'a paru impossible de ne pas le faire, quoi.
Je suis la bouche de 100 enfants qui l'amenait au cimetière sur la tombe d'un autre rabbin où il abusait d'eux. Il les déshabillait et il leur faisait tout ce qu'il voulait. Je dois te dire, au Nouvel An juif, je pleurais à chaque fois. Je vais te le chanter. Pourquoi je pleurais? Mon âme est à lui, mon corps est à lui, à Dieu. Ni mon âme, ni mon corps n'étaient à moi, ni à Dieu. Mon âme était à celui qui me frappait et me tripotait. Mon corps et mon âme étaient à lui. Car quand un homme de 40 ou 50 ans t'attrape comme il veut, Ton corps et ton âme s'enfuient ensemble et tu crois plus en rien, ni en ton âme, ni en ton corps, et tu veux même plus croire en rien.
Difficile de prendre la parole après cet extrait, Yolande Zimmermann. C'est Menahem qu'on vient d'entendre, donc ouais. le héros de votre film.
Ouais, c'est M comme Menahem.
Ouais. M comme Menahem, et héros parce qu'il va bouleverser l'ordre des choses en revenant, parce qu'avec lui, vous êtes revenu sur les lieux du crime, c'est-à-dire vous êtes revenu dans cette communauté qu'il a quittée.
Oui, il s'est enfui à l'âge de 20 ans. Il a coupé ses papillotes, ouais. Il a enlevé sa redingote et il a été se réfugier dans un cimetière. Et puis, il en est sorti. Il a rencontré Amos Gitai qui lui a confié un petit rôle dans un film. Et c'est là où je l'ai découvert, en fait. J'ai découvert ce garçon qui parlait yiddish couramment et je me disais, mais d'où il sort? Et parce que moi, j'adore le yiddish grâce à ma grand-mère.
Ouais, et vous le parlez couramment?
Et enfin, pas si bien que ça, mais j'ai l'air de le parler très bien. À la fin du film, je le parlais beaucoup mieux qu'au début.
J'imagine. Parce que dans ce quartier, on ne parle que yiddish.
Absolument. Et en fait, voilà, j'adore le yiddish, mais j'aime pas la nostalgie. Je suis un peu allergique à la nostalgie. Donc, je sais pas trop quoi faire de cet amour-là. J'en ai fait un film qui s'appelait « Moi, Yvan, toi, Abraham ». Et là, de nouveau, voilà, j'étais intriguée. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, j'ai sur mon WhatsApp des messages en yiddish de garçons de 30 ans, de 35 ans. Et j'adore ça, quoi.
Alors, c'est le yiddish qui fait que vous vous intéressez à cet homme, à Menahem Lang. Et puis, vous allez le poursuivre pendant plusieurs années. Et c'est lui qui va vous pousser à faire ce film? C'est lui qui va vous convaincre qu'il faut qu'il fasse ce film pour pas devenir lui aussi un violeur?
Oui, je le poursuis pas, je le suis du regard.
Ouais.
Il sait pas, même pas que j'existe. Et puis un jour, je prends un rendez-vous avec lui et je tape son nom et il y a un blog qui apparaît sur des enfants qui ont été violés en milieu orthodoxe. Et je crois, parce qu'il y a une séquence qu'il a filmée avec une caméra cachée, un de ces violeurs qui avoue tout devant la caméra, je crois qu'il est en train de faire un film et je lui propose de l'aider à trouver de la production. Et il me dit, mais non, j'ai fait ça il y a 10 ans. J'ai reçu des menaces et j'ai tout arrêté. Et à partir de là, il m'appelle et il me rappelle en me disant, faisons-le, ce film. Et on l'a fait.
Vous l'avez fait, il est magnifique, je l'ai déjà dit. Vous revenez, donc lui revient pour la première fois dans ce quartier qui s'appelle Bnei Brak, c'est ça?
Bnei Brak, c'est à 20 minutes de Tel Aviv. C'est une ville, c'est la capitale mondiale de l'orthodoxie juive. C'est la ville des hommes en noir. C'est Haredim, c'est-à-dire des craignants Dieu, des tremblants devant Dieu. Et c'est une ville en même temps extrêmement vivante, qui vit jour et nuit. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma. Donc le spectacle, c'est la rue et la synagogue. Les gens dansent, les gens chantent, les gens prient, les gens étudient. Et au milieu de ça, il y a ce crime qui parfois se passe et nous on était là et moi je suis arrivée alors que jamais ils auraient dû me laisser passer en fait. Hein.
Oui c'est ça, alors là je me demande comment c'est grâce au yiddish que vous arrivez à rentrer dans ce quartier qui est fermé quand même, complètement fermé. Il y a très peu d'étrangers qui peuvent y entrer.
C'est grâce au yiddish, c'est grâce à Menahem bien sûr beaucoup, qui arrive et se met à chanter comme vous avez pu l'entendre. Ouais. Et là, c'est comme si Mick Jagger arrivait au village, quoi. tout le monde vient autour et les gens parlent justement parce qu'ils sont pas formatés, ils parlent tout de suite vrai. Et moi, je dois dire que je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je filme, je deviens invisible.
Oui, c'est ça. C'est la question que je me posais. Pour que les gens vous parlent comme ça, parce que ce qui se passe, c'est que Menahem, en revenant, provoque quelque chose et les gens se mettent à parler devant votre caméra, se mettent à parler la nuit. Vous avez fait le choix, Yolande Zimmermann, de filmer la nuit. Je sais pas où vous vous mettez derrière votre caméra.
Ben, juste derrière.
Mais pour disparaître à ce point-là et pour que ces hommes... Ben.
C'est disparition et apparition, puisque moi je déteste les caméras cachées, donc je dis toujours aux gens, vous pouvez regarder dans l'objectif, j'adore ça. Si vous regardez en plein dans l'objectif, vous regardez le spectateur, il aimera ça aussi. Donc je suis très présente d'un côté, et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a quelque chose de si naturel pour moi dans le fait de filmer, filmer, c'est ce qui m'a permis de quitter ces 18 heures par jour où je rêvais. C'est la seule chose que j'ai compris, qui m'a mis debout. Et visiblement, et j'ai filmé dans des lieux très étonnants. Un jour, j'ai filmé dans l'ambassade d'Iran. Au bout d'une heure, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Voilà, toute ma vie, ça a été une chose si naturelle que... et puis, j'étais tellement contente qu'on me laisse passer, quoi. J'arrêtais pas de sourire.
Ouais,
et je crois que les gens avaient confiance dans ce sourire-là.
Ah, mais ça, je peux comprendre. Donc, c'est vous et Menahem.
Ouais,
vous deux, vous avez provoqué ça. Et alors, donc, Menahem est là. Au départ, dans le film, il est enragé, rempli de sa douleur. Il sait plus quoi en faire. Il veut en découdre. Il raconte à qui veut l'entendre son histoire. Il veut se venger d'une certaine manière. Et puis, le film va se transformer. C'est ça qui est absolument magnifique. Et les gens vont venir vous voir en vous demandant ce que vous faites là. Et là, des choses vont se dire, des choses inouïes.
Ouais, absolument inouïes. Et c'est vrai qu'on n'est pas rentré avec le même pied dans le film. Lui, il voulait se venger, moi, je voulais voir. Je voulais comprendre, parce que j'étais sûre que les gens que j'allais filmer allaient me révéler une espèce de secret universel sur le viol, qui est présent partout dans nos sociétés depuis toujours, et qui est certainement un des problèmes les plus importants de notre monde. Parce que quand on réfléchit et qu'on se dit que c'est là depuis la nuit des temps, que c'est là dans toutes les cultures, toutes les religions, tous les pays, on se dit aussi que ça change tout, ça change le rapport à la politique, à l'obéissance, à l'autorité, à la cruauté, et pas uniquement à la sexualité. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on doit penser, en fait. Et l'envie, le rêve du film, c'est... par la joie qu'il y a justement des gens à se raconter, à ce que le temps s'organise autour de leurs blessures, à ce que cette joie soit partagée et que les gens quittent la honte et puissent raconter.
Je t'ai entendu parler yiddish. Vous faites quoi ?
Tu veux qu'on te filme ?
Seulement si on ne voit pas mon visage.
T'as quel âge maintenant ?
19 ans et demi.
Et t'es fiancé ? Hein ? C'est quand le mariage ?
Cet hiver.
Que cette année soit heureuse.
Amen.
T'auras des enfants, tu comprendras. Moi j'ai des enfants, alors je lutte contre ces gens, religieux ou pas.
Je n'ai pas d'enfants, mais je vois de qui tu parles.
On a abusé de toi aussi ?
Je pourrais porter plainte contre des frères et un beau-frère.
Quoi ?
Des frères et un beau-frère.
Qui t'ont violé ? Pourquoi tu les dénonces pas ? La réputation de ta famille ?
Non, mais je ne peux pas faire ça à un frère.
C'est plus dur ?
Tu mettrais ton frère en prison ?
Non.
Ils ont des enfants, des familles. Je vais briser leur famille.
Non. T'en as parlé avec eux ? Tu leur parles ?
Ils ne savent pas que je sais qu'ils m'ont fait ça. Ils le faisaient la nuit. Je faisais semblant de dormir. J'étais aujourd'hui chez le maître des mariages.
C'est le maître ? Pour la première fois ?
Tout était cassé en moi. Mon histoire est remontée. Pourvu que je puisse me marier, ça affecte tout. Je ne sais pas quoi faire, jour après jour. Tu connais ça ?
Alors ça, c'est un des personnages, Yolande Zoberman, qui m'a le plus frappé. Ce jeune homme qui vient vers vous comme ça la nuit et qui vient dire... qu'il a été lui aussi violé et qui ne sait pas comment il va faire avec ce mariage, qui ne sait pas ce que c'est qu'une femme, qui ne sait pas. Et ce qui se passe de formidable dans ce film, c'est que les gens viennent à vous et ces hommes parlent de sexualité.
Oui, et en fait, on était dans le cimetière
ouais.
Et on voit cet homme, ce jeune homme, qui parle au téléphone, dans leur téléphone sans internet, là, alors qu'il claque. Et on se dit, il va nous dénoncer, on n'était pas encore habitués à être bien reçus. Et en fait, il s'approche et pas du tout, quoi. Il nous entend parler yiddish et il rentre dans la danse et on va le suivre tout au long du film puisqu'on va le suivre pendant son mariage, aussi son divorce. Et sa difficulté. Et en même temps, sa si grande honnêteté, en fait. Ah oui. Il connaît rien aux filles, il connaît rien aux femmes.
C'est lui qui dit que les femmes n'ont pas de sexe, c'est lui, ouais. C'est ça.
Et il n'y connaît rien, quoi. Il connaît que les hommes, puisqu'il a été violé par des hommes, et il fantasme sur les hommes, et il en parle, et c'est vrai que ils ont un rapport à la vérité tellement touchant, tellement sidérant, en fait. Et ces rencontres, il y a eu lui, et lui, en plus, il a été c'était un des premiers jours du tournage, et 2 jours plus tard, on rencontre cet autre homme. Et là, c'est encore plus étonnant parce que Shmili, donc ce jeune homme, on le rencontre dans le cimetière de Bnei Brak, donc on est quand même dans la ville orthodoxe. Et puis 2 jours plus tard, on est à Jaffa, la partie arabe de Tel Aviv. Et là, on rencontre un homme qui a été violé et qui a violé et qui en parle à visage découvert et qui raconte qu'il a été voir la famille de l'enfant et qu'il a fait ça pour s'excuser, pour que l'enfant n'ait pas honte, pour que l'enfant sache que c'est pas sa faute à lui. Et que l'enfant ne fasse pas comme lui, c'est-à-dire ne rentrant pas dans un cercle vicieux. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est soigné. Et cet homme devient le héros des autres, hein, qui disent tous, mais nous, si notre violeur s'était venu s'excuser, mais notre vie aurait été différente, quoi. Et donc ça, c'était assez extraordinaire de voir comment ils échangeaient les uns avec les autres.
Mais c'est ça qu'on entend, c'est qu'on voit ces hommes dont la parole se libère, qui ont une naïveté et une honnêteté vis-à-vis de ce qu'ils ont vécu. Qu'il soit violeur ou violé. Et puis, vous le dites dans votre film, je suis comme le joueur de flûte, les hommes blessés viennent à vous et disent, dans toute leur douleur et dans toute leur humanité, ce qu'ils ont supporté. Et à la fin, ils dansent ensemble et c'est comme une... Ils sont heureux d'être là ensemble à danser. Et c'est l'humanité que l'on voit danser. Vous ne jugez pas, vous ne jugez à aucun moment.
Non, parce que qui je suis... Bon, bien sûr, je suis pas impartiale.
Non, bien sûr.
Mais je suis pas là pour juger, je suis là pour vous savez, un tournage, c'est quelque chose d'un peu magique, c'est un peu comme une histoire d'amour. On avance par désir, on avance parce qu'on désire en voir plus, parce qu'on désire comprendre, parce que tout ce qui est humain est fait partie de nous, en fait. Et à partir du moment où il y a ce rapport à la vérité, cette humanité, aussi complexe soit-elle, peut se dire, et on s'en rend compte en littérature et dans la vie, on n'accepte pas ça. Dans la littérature, on accepte des personnages paradoxaux, compliqués, pourvu qu'ils se racontent. Dans la vie, on voudrait que tout le monde soit binaire, en fait. Mmh. Et c'est pas comme ça. Donc, il est temps qu'on s'assied sans hystérie, qu'on regarde le monde tel qu'il est, qu'on se demande comment passer à une nouvelle humanité, quoi.
Une journée particulière. Zoé Varié sur France Inter. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever.
always know sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever.
1967, Yolande Zauberman, on revient à votre journée particulière. C'est le chef-d'œuvre des Beatles. Vous l'écoutiez en 67, cette musique ?
Je prenais une radio que je mettais comme ça sous mon oreiller la nuit. Je ne savais pas trop ce que j'écoutais. Ça se mélangeait à mes rêves. Moi, je crois que les rêves, c'est très important, en fait. Un jour, quelqu'un m'a expliqué que devenir adulte, c'est mettre ses rêves dans la réalité. En tout cas, tenter. Et je me suis dit, waouh, c'est génial, j'ai plein de rêves, moi.
Et c'est ce que vous faites au cinéma.
Ouais, pour le lien entre ces rêves et le cinéma. Et c'est vrai que vous parliez de tournage de nuit.
Ouais.
Pour moi, c'était ça aussi. C'était tourner comme si c'était un rêve, en fait.
Oui,
qui, par moments, devient un cauchemar, mais quand même comme un rêve. Et les cauchemars, c'est aussi des rêves.
Avec des frontières floues.
Ouais.
C'est exactement ça, votre film M. Alors en 67, les Beatles chantaient, vous découvriez Les Demoiselles de Rochefort et à peu près en même temps M le Maudit. Et mais en 1967, est-ce que vous saviez, Yolande Zauberman, que Frédéric Weizmann tournait son premier documentaire qui s'appelait Titicut Follies, qui est un documentaire qui a été tourné dans une prison asile psychiatrique où les détenus sont considérés comme fous et qui a été interdit aux États-Unis pendant plus de 20 ans. Yolande Zauberman, vous vous souvenez de cet extrait de Titicut Follies ?
Oui, je me souviens très bien de ce film. C'est un film qui m'a énormément impressionnée. Et il y a une scène dans ce film qui, pour moi, est une scène fondatrice. C'est dans la partie psychiatrique d'un pénitentiaire.
Mmh.
Et à un moment, il y a un conseil des médecins qui est là. Et il y a un des prisonniers qui arrive et qui dit... je ne suis pas fou, renvoyez-moi au pénitencier, je ne suis pas fou. Et on lui dit, mais regardez, vous tremblez. Il dit, oui, je sais, je tremble parce que je suis tellement nerveux et puis vous me donnez tellement de médicaments, mais je ne suis pas fou, je vous demande pas de me libérer, je vous demande juste de me renvoyer à la prison normale. Et moi, cette scène, elle me terrifie, cette peur de la folie, cette peur d'être considérée comme fou m'a habité toute mon enfance et mon adolescence. Et quand j'ai rencontré Weizmann...
Vous l'avez rencontré ?
Ouais, je l'ai rencontré. On a parlé de cette scène et lui me disait qu'aussi c'était une des scènes les plus fortes de sa vie. Et c'était terrible, terrible, terrible.
Il vous a inspiré, Frédéric Weizmann. C'est le grand documentariste américain. Moi, j'ai cru voir des similitudes entre vous et lui, des choses comme ça sur des gros plans, des plans fixes, l'utilisation de la musique comme la chanson qu'on a entendue là, qui est aussi un passage terrible où il chante ses détenus pour un anniversaire et c'est une chanson d'amour où ils disent leur tristesse et leur spleen et puis il y a comme ça des gros plans sur leur visage fatigué sans aucune expression. Et je trouve que vous avez quelque chose de commun avec Weizmann.
En tout cas, j'ai une immense admiration pour lui. À l'époque, j'avais une immense admiration pour lui, pour Jean Rouch.
Ouais.
Et pour Jonas Mekas. Mais je me sentais affectivement, sensuellement, plus proche de Mekas qui célèbre la vie. J'ai vu Paradise is Not Yet Lost, un film absolument remarquable. Les films de Mekas sont joyeux, les gens lui disaient. Donc c'est un cinéaste lituanien qui s'est installé à New York, qui est devenu extrêmement important. Et les gens lui disaient, mais le New York que tu filmes, nous on le connaît pas, quoi. Il est tellement heureux, il est tellement joyeux. Et donc c'est vrai que je me sentais plus proche de Mekas dans mon sentiment, mais avec une admiration pour l'avocat, en fait, parce que Wiseman, c'est un avocat qui faisait ses films comme des dossiers, comme un avocat prépare un dossier. C'est lui qui prenait le son, la caméra était souvent ailleurs. C'est juste extraordinaire, son œuvre.
Alors, quand vous parlez de joie, de vie, c'est ce qu'on retrouve toujours dans vos films documentaires, c'est-à-dire aussi bien sur votre premier documentaire, Classified People, que vous avez fait 20 ans après Weizmann, c'est très étonnant d'ailleurs, hein, en 87, où vous travaillez sur cette loi de classification raciale sur laquelle s'est appuyé l'apartheid, et vous suivez comme ça un couple de vieils amoureux avec un homme qui a été classifié métisse alors que sa famille a été classifiée blanche et que ça l'a absolument séparé des siens, ses fils l'ont renié. Mais il y a quelque chose de magnifique dans votre film parce que vous parlez aussi de l'amour, de cet amour avec cette femme noire qui l'a compris et qui l'aime pour ce qu'il est.
Oui.
On est toujours entre les deux.
On est entre les deux, mais vous savez, moi, je me suis jurée un jour de faire des gens que je filme des héros et pas des victimes. Et je trouve que victimiser quelqu'un qu'on filme, c'est le blesser à nouveau. Et puis, je sais pas, je trouve que... Vous savez, on dit au Brésil que la plupart des femmes brésiliennes sont belles parce qu'on leur a jamais dit qu'elles ne l'étaient pas. Moi, dans ma culture, il y a comme une espèce d'obligation d'être un peu sexy, d'être un peu séduisant. Et du coup, pour moi, c'est très important de rendre les gens beaux, de les rendre séduisants, de faire en sorte qu'ils parlent aussi sensuellement aux spectateurs. Et dans Classified, il y avait cette histoire d'amour juste magnifique. Et des gens que j'ai filmés ont changé ma vie. Parce que, d'une certaine manière, je leur posais une question muette, parce que là, c'était pas une question posée, où je me disais, mais comment est-ce qu'on vit quand on est désigné d'une certaine manière? Quelle marge de liberté on a? Et ils m'ont dit, de manière muette, la marge de liberté qu'on a, c'est l'intime. C'est en résistant dans l'intime qu'on est quelqu'un. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. J'étais d'accord pour ça.
Vous étiez d'accord pour ça, et c'est ce que vous avez fait ensuite dans la suite de votre travail, c'est-à-dire l'intime et le réel, éclairer le réel par l'intime. C'est là où vous êtes, Yolande Zauberman, aussi bien dans M que aussi dans un autre de vos films documentaires qui s'appelle Would You Have Sex with an Arab, où là carrément vous interrogez, vous faites de l'intime un sujet politique ou vous faites de la politique par l'intime, puisque vous demandez aussi bien aux Juifs qu'aux Arabes israéliens de savoir s'ils pourraient coucher ou faire l'amour avec ou une Palestinienne, un Palestinien ou un Juif. C'est ça, hein?
Oui, et là, pareil, je me disais, mais quelle chance j'ai d'être un endroit sexy du problème, quoi. Franchement, ce problème qui torture tout le monde depuis tant d'années. Il y a même un livre de science-fiction chinois qui raconte que dans l'an 3000, tous les problèmes du monde ont été résolus, sauf le problème israélo-palestinien. Et là, il y avait quelque chose qui aurait pu avoir l'air superficiel, mais qui n'était pas du tout, parce que pour désirer l'autre, il faut le voir. Et le désir ne s'installe que comme ça. Et donc, c'était passionnant, puisque je n'ai filmé que des gens très ouverts, d'un côté comme de l'autre.
Qui réfléchissent tout haut, encore une fois, devant votre caméra, une parole très libre.
Oui, ils savaient pas la question, ils connaissaient pas la question que j'allais leur poser. Et ils répondent tous, en plus. Et avec une honnêteté effarante, quoi. Et tout d'un coup, ils sont perdus. C'est-à-dire qu'il y en a qui se disent, mais est-ce que je suis raciste? Voilà, ils prennent conscience de quelque chose auquel ils n'avaient pas pensé jusque-là. Par le désir. Le désir plus fort que la peur.
I'm
Zoé Varier sur France Inter.
Yolande Zoberman, en juin 1967, donc Françoise d'Orléac, que vous aimiez tant, disparaît dans un accident de voiture. Je vais reprendre comme ça quelques éléments de l'année que vous avez choisi. En juin 67, c'est le début de la guerre des six jours en Israël, dans le Sinaï. L'été 1967, c'est Long Hot Summer à Détroit, un été d'émeutes raciales parmi les plus meurtrières et les plus destructrices à Détroit de l'histoire des États-Unis. En juillet 67, en France, on crée l'Agence nationale pour l'emploi. En 67, il y avait déjà 300 000 chômeurs. Charles de Gaulle, en visite officielle au Canada, fait son fameux discours au cours duquel il prononcera sa fameuse phrase « Vive le Québec libre ». En 67, Élise ou la vraie vie de Claire Etcherelli reçoit le prix Femina. C'est l'année au cinéma, entre autres, de Belle de jour, de Louise Buñuel. Et oui, de Blow Up, de Antonioni, de Playtime, de Jacques Tati, de La Chinoise, de Jean-Luc Godard, et du livre de la jungle. Vous saviez tout ça?
Non, je savais pas tout ça, mais je trouve formidable toute cette filmographie de 67.
Ouais, j'ai dû faire un choix, il y en a plein d'autres. Bien sûr. Il y a Bonnie and Clyde, il y en a, ça, wow. Voilà. Wow. Et en musique, en 67, il y a Claude François qui chante comme d'habitude, Jacques Dutronc, Les Cactus, Nino Ferrer, Le Téléphone qui sont, et Joe Dassin, Les Dalton.
Y a plus personne. Les années passèrent. Il s'était débrouillé pour attraper la rage.
Yolande Zoberman, ça a le goût de votre enfance ou pas du tout?
Les Dalton, ouais. Pas trop, mais tout le reste, pas l'enfance, mais c'est des choses blow up, des films d'une sensualité absolument extraordinaire. La Chinoise, la période politique qui s'ouvre. Après Godard, après avoir fait des films de tendresse incroyables, comme Une femme est une femme, ouais. Des films où il était amoureux, en fait.
Ouais.
Voilà, c'est la vie complexe avec tous ces ingrédients.
Yolande Zimmermann, vous parlez de sensualité. Moi, je vais vous répondre par de la danse, par du corps. Et c'est en 1967, au Festival d'Avignon, que Maurice Béjart monte « Messe pour un temps présent ». Je vous fais écouter la musique. Vous connaissez cette musique par cœur, hein, Yolande Zimmermann.
Ouais, c'est magnifique. Et la danse, pour moi, c'est l'art suprême. Je trouve que la vie, ça doit ressembler à une danse. Et quelquefois, on fait tapisserie, mais la vie, voilà, c'est. Et je trouve que les danseurs ont une capacité. Moi, je suis entourée de beaucoup de danseurs, en fait, dans ma vie. Et je trouve que ce sont les gens les plus curieux, les plus. Qui se nourrissent de plein de choses pour pouvoir continuer à inventer le mouvement. Je trouve ça vraiment formidable. Le corps a une histoire, le corps raconte une histoire.
Et vous les filmez magnifiquement, les corps.
J'adore la danse, j'adore filmer la danse, j'adore filmer les corps.
Et dans votre film Would You Have Sex with an Arab, vous avez écumé les boîtes de nuit, la nuit à Tel Aviv, et vous avez filmé les corps qui parlent d'amour, mais les corps qui dansent. Et moi, j'ai en tête une scène folle. C'est en plein cœur de Tel Aviv, c'est une fête palestinienne, une fête queer palestinienne, avec un DJ qui vous raconte que c'est là, c'est la fête d'une association de trans, de lesbiens, de gays qui a organisé cette fête et que c'est leur manière à eux de faire la révolution, leur révolution sexuelle.
Absolument. Et d'ailleurs, dans M, il y a une scène avec Miss Trans Israël, qui est arabe. Elle est absolument magnifique.
Magnifique.
Elle est d'une beauté à tomber, d'une intelligence. Et c'était très important qu'elle soit dans M de la même manière. Effectivement, c'est un rappel, c'est une piqûre de rappel de Would You Have Sex with an Arab, mais c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui se réinvente. C'est l'histoire de quelqu'un qui, dans un monde, j'ai même rencontré une trans qui est venue à pied de Gaza à Tel Aviv, et je trouve que cette histoire, ce monde raconte quelque chose de passionnant, en fait. Et voilà, j'adore ce que les corps racontent sans un mot. Moi, je parle beaucoup, mais j'adore le langage des corps. Je trouve que c'est vraiment le langage suprême, qu'il faut savoir regarder ce que racontent les gens par leur corps.
Et Menahem dit à ce trans, finalement, tu es plus libre que moi, parce que moi, je ne sais pas qui choisir, quoi choisir dans ma sexualité, je ne sais pas où j'en suis dans ma sexualité. C'est ça qui se passe dans la rencontre entre M et ce trans.
Oui, et ça pose le problème de la sexualité qui va se développer pendant tout le film, parce que c'est vrai qu'on redéploie la sexualité à partir de la blessure, mais quand on y réfléchit, on existe tous sur cette cartographie de la blessure. Mmh. Qui, comme enfant, a eu un premier rapport beau avec la sexualité? Ça a toujours été, en général, un peu brutal, que ce soit par mot, par geste ou plus. Donc, il y a quelque chose dans le redéploiement de la sexualité qui est passionnant.
Et dans la reprise.
Ouais.
Dans la reprise, dans se reconstruire et reprendre pour ne plus être un homme ou une femme en morceaux et pour tenir debout.
Pour s'inventer, oui.
Pour s'inventer. Merci Yolande Zimmermann d'avoir passé cette heure avec nous, une heure trop rapide qui est passée trop vite. Bravo encore une fois pour votre dernier film. M, qui est projeté partout en ce moment dans les salles de cinéma, c'est bien ça?
Oui.
Ouais. Courez-y. Vous avez aussi écrit un livre avec Selim Nassim sur l'histoire de M qui se passe donc dans cette communauté juive ultra-orthodoxe. Et ce livre est publié aux éditions du Seuil. Les références seront sur le site de l'émission. Merci à vous. C'était une journée particulière, une émission préparée par Rebecca de Nantes, Alina Anne Delaveau, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Fabrice Desmaz. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. À la semaine prochaine. tout de suite. Après le flash, ce sera Vincent Josse avec son grand atelier.